Voilà, quand Laurence et Laurent m'ont proposé de venir présenter quelque chose ici, j'ai repensé à un petit module de recherche et d'exploration que j'avais mené dans le cadre de ma thèse il y a 3 ans maintenant, autour de ce qui se passait sur les phénomènes d'adaptation dans une économie importante du cinéma, probablement la plus importante au monde, qui est celle du cinéma indien, et que c'est vrai que j'ai un petit peu désigné le terme de Bollywood ici, qui concernait les adaptations de films de Bollywood en jeux vidéo pour le marché indien. Alors, si je m'étais intéressé à cette question, ça partait au départ d'un travail statistique que j'avais mené en travaillant sur les adaptations de films en jeu, où j'avais constitué une liste, si possible la plus exhaustive possible, des films adaptés en jeu vidéo. Et c'est vrai que la méthodologie et les choix de plateforme que j'avais fait m'avaient amené à ignorer le cinéma indien. En fait, j'avais sélectionné 36 plateformes. Il s'agissait principalement de consoles de jeux. Et j'avais enlevé les jeux sur téléphone portable, puisqu'on était en 2004, à l'époque où j'ai commencé ce travail-là, et qu'on sortait d'un échec commercial qui avait été la commercialisation de la N-Gage chez Nokia. Je vais y revenir juste après. Donc, en sélectionnant ces 36 plateformes, qui étaient des plateformes occidentales, japonaises, de jeux vidéo, le PC faisait partie aussi des plateformes. J'avais également exclu les browser games, qui étaient souvent reliés à des politiques marketing promotionnelles, et finalement j'étais arrivé à un corpus qui aujourd'hui, avec un décompte qui s'arrêtait au 31 décembre, représente 547 films. Alors le jeu sur mobile, c'est vrai qu'entre le moment où j'avais commencé ma base de données et aujourd'hui, eh bien il a explosé. On avait un marché du mobile qui avait connu un développement assez incroyable depuis le milieu des années 90, qui concernait le monde occidental, mais également l'Afrique ou les BRIC, et l'Inde fait partie des BRIC. Et puis du côté du jeu vidéo, les développeurs et constructeurs de téléphones portables s'étaient emparés des possibilités de programmer en Java sur beaucoup de ces téléphones portables, ce qui fait que les jeux étaient arrivés progressivement à partir du tout début des années 2000 sur nos téléphones portables de la génération précédente. Alors, probablement inspiré par cette idée que le téléphone devenait une plateforme de jeu, on avait un constructeur, Nokia, qui avait sorti deux modèles différents d'un téléphone qui s'appelait donc le N-Gage, qui bien évidemment permettait de téléphoner, mais également de jouer à des jeux qui étaient vendus sous forme de cartouches et qu'on insérait alors dans le premier modèle de façon assez compliquée, parce qu'il fallait ouvrir son téléphone, insérer son jeu, le refermer, donc on n'avait pas du tout de possibilité de changer rapidement et facilement les jeux, ce qui pouvait être un petit peu problématique dans un usage de la console portable. Et puis, il s'est avéré que les questions de design et d'ergonomie de l'objet étaient aussi un peu embêtantes, puisque pour téléphoner, par exemple, il fallait tenir sa console sur la tranche, et le micro et le haut-parleur étaient sur la tranche, enfin en tout cas du premier modèle. Par ailleurs, par exemple, les boutons étaient des boutons de téléphone portable, un petit peu durs d'appuyer dessus, ce qui faisait que le confort de jeu n'était pas du tout adapté à ce que l'expérience de jeu pouvait proposer à côté de ça. Des consoles de jeux vidéo comme la Game Boy Advance ou la PlayStation Portable qui arrivaient juste après. Et puis, problème aussi, c'est qu'en général, mais ça c'est une grande leçon de l'industrie du jeu vidéo, c'est pas le matériel qui compte et ses capacités, mais c'est l'offre éditoriale qui est associée à ce matériel. Et il faut que les bons jeux accompagnent le matériel. Donc voilà, moi j'arrivais un peu à ce moment-là et commençant ma base de données, je me suis dit, bon, peut-être que ce n'est pas forcément le territoire à observer en premier lieu, dans ma logique d'essayer de comprendre un peu des politiques de diversification entre films de cinéma et jeux, et j'avais éliminé le téléphone portable. Et puis, deux ans après, Apple sort l'iPhone, l'iStore commence à accueillir des jeux sur téléphone portable, les smartphones se développent, les plateformes Android, etc. Et on a là un secteur du jeu vidéo sur téléphone mobile qui est très largement en train de bouleverser un peu l'industrie, de remettre en cause, par exemple, la distribution de jeux sous boîtier distribués chez votre vendeur, dans votre supermarché, etc. etc. On avait accueilli ici à l'INHA il y a quelques mois, dans le cadre des séances du Greca, un développeur, Fabien de Mulhener, qui était venu nous parler de son travail de développeur sur iPhone. Alors, moi, dans mon calcul, vous voyez que l'Asie, ces films adaptés en jeux vidéo sur console et plateformes de jeux, sont largement des films américains, et l'Asie était très peu représentée. Avec quelques films japonais, quelques films chinois également, de Hong Kong. Mais, bien évidemment, il me manquait probablement tout un continent du cinéma qui était le cinéma indien. Alors, je me suis tourné en fait vers le cinéma indien en 2009, à l'occasion d'un article que j'avais rédigé pour la revue Amusement. J'étais tombé quelques semaines auparavant sur une brève sur un site d'information professionnelle sur le jeu vidéo qui annonçait que la première adaptation de film de Bollywood sur PC était annoncée par un studio de Hyderabad qui s'appelait FX Lab, et l'article mentionnait que déjà il existait des formes d'adaptation qui étaient apparues sur téléphone mobile vers 2004-2005. J'étais allé un peu fouiller sur Internet, j'avais découvert des portails de téléchargement qui permettaient de pouvoir télécharger ces jeux. J'étais rentré en contact avec FX Lab, donc une société de développement d'Hyderabad, avec un des programmeurs de FX Lab, et on avait eu plusieurs échanges d'emails où je lui avais demandé un peu de m'expliquer son travail, comment ils envisageaient des collaborations avec Bollywood, et j'avais compris que pour l'industrie indienne du jeu vidéo, Bollywood était vraiment un levier très intéressant, puisque on a une production de films. Et je remercie Amandine Davadezo qui travaille ici sur le cinéma de Bollywood, qui m'a donné quelques chiffres, mais c'est vrai qu'on est dans des estimations qui vont de 350 à 900, voire 1000 films par an. Donc on a une très large production de contenu. C'est un divertissement très populaire qui produit des récits, qui utilise des stars et qui, bien évidemment, la syntaxe propre au film indien, propose des chansons populaires qui sont appréciées du public. Par ailleurs, on a un marché du mobile, vous imaginez, avec plus d'un milliard d'Indiens, qui est absolument gigantesque. En novembre 2009, on dépassait, je vous montre ici, on dépassait les 500 000 abonnés, 500 millions, pardon, 500 millions d'abonnés au téléphone mobile. Ça, c'est des chiffres qui proviennent de l'autorité de régulation des télécoms d'Inde, et qu'on était à un taux de pénétration en 2009 qui n'était que de 43%, donc il y avait encore une marge de progression tout à fait gigantesque à l'échelle d'un pays continent. Donc, ces abonnés indiens, bien évidemment, ils travaillent plutôt, enfin, ils utilisent plutôt ce qu'on appelle, nous, un peu l'ancienne génération de téléphones portables, les vieux Nokia ou les Ericsson, etc., et qui sont en général programmables en Java. Pour ce qui concerne les smartphones, voilà des projections d'un document qui date de l'année dernière. Bon, ça va se développer, mais à l'horizon 2014, on ne devrait avoir que 67 millions de smartphones. Là, on sera probablement à 800 millions d'abonnés. L'industrie du jeu vidéo en Inde, troisième point, elle existe, et c'est assez intéressant parce qu'elle a été très souvent une sous-traitante des studios occidentaux, c'est-à-dire que par exemple, beaucoup de studios américains ou canadiens travaillant sur des simulations par exemple de football américain, faisait travailler, sous-traitait à des studios indiens des éléments de programmation, des éléments d'animation. Et donc l'industrie indienne, avec des ingénieurs très bien formés, très efficaces dans leur travail, avec un coût du travail moindre, s'est largement développée et à partir d'un certain moment s'est dit mais finalement pourquoi travailler comme sous-traitant pour un marché, marché occidental, marché américain, alors même qu'on pourrait peut-être développer notre propre marché local avec nos gamers indiens. Alors le problème de la culture gaming indienne, et ça c'était des éléments qui m'avaient été donnés par mon contact à FX Lab, c'est que finalement les quelques travaux de recherche avaient montré que le jeu sur PC par exemple ne concernait que les classes CSP+, d'Indiens qui vivaient dans les villes, dans les centres urbains, que la console de jeu par exemple était vraiment un matériel qui était très très, très peu développé, et que donc il fallait se tourner vers la plateforme électronique la plus répandue et qui était le téléphone mobile. Donc un média populaire, le cinéma, peut-être aussi un média en recherche un peu de renouveau, de rajeunissement de son public, un marché du mobile énorme, en expansion constante, une industrie du jeu vidéo qui existe là-bas, et puis une culture du jeu vidéo et des praticiens du jeu vidéo qui se développent, bah finalement on a tous les ingrédients pour se lancer dans un marché autour du mobile. Alors voilà, sur une analyse qui avait été faite par Tata, le conglomérat indien, un peu sur l'évolution du jeu sur PC, du jeu mobile. Donc on voyait, le document date de l'année dernière, qu'on a une courbe de progression très forte qui est attendue sur le jeu sur mobile, puisqu'on va passer en 8 ans de 13 millions de dollars à 496 millions, c'est toujours des rapports assez fous. Avec bien évidemment des services et des produits qui vont être commercialisés. Si on compare ce qui est attendu donc, du côté du mobile, le graphique de gauche, et du côté du PC, on voit très bien que le mobile est vraiment la plateforme d'élection pour le contexte du marché indien, puisque le marché du PC ne représentera en 2013 qu'un tiers du marché du jeu sur mobile. Alors, ce marché indien du jeu sur mobile, c'est la plateforme qui a le développement le plus fort en Inde. Je vous ai mis à droite, par exemple, un jeu de cricket. Il y a beaucoup de jeux de cricket qui sont proposés sur mobile. Donc, on a des spécificités nationales qui se développent sur ces jeux-là. On a une estimation donc, qui était là aussi dans ce rapport de Tata, qui estimait à 3 millions d'usagers qui étaient en contact, engagés dans du jeu motion mobile chaque mois. Et dans ce rapport, je vous ai mis la citation, les trois catégories les plus importantes, appréciées par les joueurs indiens, c'est les jeux de cricket en premier lieu, ce qui est normal, hein, puisque la simulation sportive, elle est dans toutes les industries le type de jeu le plus développé. Puis une catégorie Bollywood, et enfin une catégorie d'action, de jeux basés sur l'action. Mais on voit très bien que cette catégorie Bollywood est fortement, fortement développée. Alors, ces jeux qui adaptent des films de Bollywood, on va les retrouver sur des portails de téléchargement. J'avais essayé de commencer à les compter. Des fois, je me lance des défis un peu foufou comme ça, surtout par rapport au cinéma indien que je connais très très mal. À peu près, pour vous donner un ordre d'idée, j'en avais dénombré 5 en 2005. J'en avais dénombré 35 l'année suivante, et j'étais à plus de 100 l'année d'après. Voilà. Et bon, le souci, c'est que il y avait beaucoup dans ces jeux des reprises de vieux succès du cinéma indien. On retrouvait des films des années 70 ou 80 avec Amitabh Bachchan ou des stars un peu plus anciennes. Mais il y avait vraiment là aussi, c'était un peu exponentiel la manière dont les éditeurs indiens, quelques studios, s'étaient emparés de ces franchises pour les porter sur téléphone mobile. Alors, il y a différentes formules qui vont être utilisées par ces jeux. Le jeu traditionnel, hein, que je vous ai mis sur l'image en haut à droite, par exemple avec une sorte de jeu de pousse-pousse, de puzzle, où on va recomposer une image, l'image d'une star d'un film, hein, le film en question c'est Rogue. On trouve, deuxième image à gauche, des jeux qui vont s'inspirer un peu des formules des jeux électroniques du début des années 80, particulièrement ce qui avait été développé chez Nintendo sous la forme des Game & Watch. Vous savez, ces petits écrans à cristaux liquides, hein, où on avait une situation de jeu. Ici, c'est une comédie sentimentale où le personnage doit rattraper les cœurs de son amoureuse, hein, qui descendent du haut du paquebot. On est en général donc limité, l'action de jeu est limitée à un écran et puis à une action qui est souvent une action de déplacement. On a la formule du puzzle game avec la deuxième image à droite au centre. Un parcours que vous devez faire pour aller d'un coin à l'autre de l'écran de votre mobile en associant deux par deux les mêmes personnages du film, hein, donc le jeu de réflexion d'une certaine manière. Et puis toute une série de formules qui correspondent en fait aux jeux vidéo du début des années 80, hein, qui est adapté avec donc des formules action 2D, du scrolling, c'est-à-dire du défilement de l'écran, autour des jeux de plateforme, autour des jeux de course, autour des jeux des beat'em up, des jeux de baston, où on progresse en affrontant des personnages qui vous agressent. Également parfois, un peu dans la même famille, des jeux en 3D isométrique, mais qui sont aussi des représentations qui ont largement disparu de la production actuelle de jeux vidéo, hein, qui correspondent aux années 80. Et puis une formule un peu particulière et qui était pour le coup peut-être la seule qui s'adaptait vraiment à la syntaxe des films de Bollywood, ce que j'appelais les rhythm and game formula, c'est-à-dire des jeux qui invitaient à toucher en rythme, selon une musique jouée par le téléphone, des touches, ici les touches directionnelles de son clavier de téléphone pour marquer le rythme en même temps que la chanson, et qui était là aussi une formule importée de jeux japonais du milieu des années 90, les Dance Dance Revolution particulièrement, qui sont assez connus pour avoir popularisé ce type de jeu. Et beaucoup de films se saisissaient un petit peu de cette formule ludique pour proposer une expérience de jeu associée au film. Alors moi, ce qui m'a assez frappé, ayant travaillé sur les autres films hors de Bollywood adaptés en jeux vidéo, c'est qu'on avait ici une variété très forte de genres, beaucoup plus forte que dans la production, que dans les films occidentaux adaptés en jeux vidéo, ou action-adventure, science-fiction, c'est-à-dire grosso modo les trois genres ultra-dominants du corpus des films adaptés. Du côté des films de Bollywood, on trouvait des drames, on trouvait des films historiques, on trouvait de la comédie romantique, des films d'humour, des films d'action, Don 2, par exemple, dont je vais vous montrer un extrait pour conclure, avait été adapté. Donc il y a une capacité beaucoup plus large de s'emparer de la diversité générique qui est développée au sein de cette syntaxe propre au film indien. Alors, de ces créations sur mobile, bah, finalement, cette industrie indienne, elle va essayer de construire une industrie un peu plus mainstream et sortir de la formule du mobile. On a un jeu qui s'appelle Agni, qui est sorti il y a 3 ans sur PC, qui mettait, alors qui n'était pas une adaptation directe d'un film, mais qui mettait en scène un avatar qui avait été créé sur le physique et le visage de Malaika Arora Khan, qui est une actrice indienne très, très connue, et qui était en fait une reprise d'un jeu occidental, Irrational Games, qui avait été arrêté, enfin le développement avait été arrêté en cours de production, et FX Lab, donc le studio d'Hyderabad, avait repris ce jeu-là, l'avait adapté à cette actrice et l'avait sorti pour le territoire indien. Le deuxième jeu, c'est un jeu sur les premières adaptations de films indiens sur PlayStation 2. Le film s'appelle Ra One. On a également, sous la forme du jeu de rythme, un jeu d'arcade qui avait été là aussi développé par FX Lab, commercialisé dans l'État d'Andhra Pradesh, et qui est un jeu de rythme avec les succès du cinéma Telugu, qu'on appelle parfois Tollywood. Et vous avez ici une photo de la, du lancement du jeu avec une star masculine locale qui s'appelle Venkatesh. Et puis, dernier exemple sur lequel je vais conclure, Dawn 2, qui est un jeu qui s'inspire de la formule du third person shooter. Ah, est-ce qu'on a un petit câble son qui est un jeu qui s'inspire de la formule du third person shooter, et en même temps, utilisant le moteur graphique Unity, hein, qui est un moteur qui permet de développer sur iOS, sur Android, mais aussi sur PS3 ou Wii. On a une esthétique visuelle qui rappelle un peu celle des premiers épisodes de Grand Theft Auto, hein, cette saga de Rockstar inspirée des films de gangsters. Et donc je vais vous montrer le tout début du jeu, hein, qui est une séquence un petit peu de tutoriel pour apprendre un peu les règles. Et vous allez voir qu'on retrouve des extraits du film et ainsi que les premières séquences. Hein, cinématique d'introduction et puis la première séquence qui correspond à la première séquence du film en Thaïlande où le personnage s'est retiré puisque c'est une suite d'un remake. Les contrôles sont tactiles, hein, donc vous avez à gauche la représentation du pavé tactile, hein, que le joueur touche sur l'écran, puisque c'est ici la version qui est faite pour Android. Hein. Sur une séquence narrative ici qui reprend en fait les codes de la bande dessinée. Voilà, et donc la
séquence de jeu se poursuit jusqu'à pouvoir conduire un véhicule. Donc il y a la variété, mais c'est la formule du third person shooter qui est encore. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a vraiment une industrie qui se construit un petit peu de manière rétroactive hein, par rapport à la façon dont elle s'est constituée en Europe. C'est vrai que le développement sur Java aujourd'hui, en Europe ou aux États-Unis, est largement supplanté par le développement pour Android et pour iOS. Mais on voit qu'à partir de la disponibilité de cette plateforme de communication qui est le téléphone mobile, eh bien finalement l'industrie va passer de développement pour ces mobiles, hein, sachant que c'est sur des générations qui nous paraissent aujourd'hui peut-être un peu anciennes de mobiles, pour tout doucement arriver vers de nouveaux jeux sur les plateformes actuellement en cours en Occident. Voilà, bah vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, et puis si vous voulez avoir des infos sur cette étude statistique sur les adaptations, elle est disponible en français sur inaglobal.fr et en anglais sur kirasutra.com. Je vous remercie.